Bon, bah déjà, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast Hypersensible et Hyper Sereine. Ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter un peu et tu me diras si j'ai oublié quelque chose. Ça te va?
D'accord, parfait.
Ça marche.
Merci.
Alors, donc, tu t'appelles Chloé Chaudet. Tu es professeure de littérature et maîtresse de conférences. Tu as publié le livre récemment J'ai décidé de ne pas être mère, un livre qui bouscule les préjugés, dans lequel tu racontes ton cheminement intime, mais aussi bah, finalement la difficulté des réactions auxquelles tu dois faire face, quoi. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Oui, tout à fait. Oui, alors ben, simplement, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Oui, simplement que ce livre, alors c'est à la fois un témoignage, mais c'est aussi une réflexion un petit peu plus générale. En fait, j'ai essayé de, alors à mon modeste niveau, bien sûr, hein, mais de rendre justice au grand slogan féministe, le personnel est politique, qui s'est développé dans les années 60-70 aux États-Unis avant d'arriver vers la France. Et voilà, donc il y a une partie témoignage, bien sûr, c'est un récit que j'ai essayé de concevoir ou de produire comme un récit incarné, mais j'ai aussi essayé de présenter pas mal de références, de faire écho à des voix un petit peu plus universitaires qui sont un petit peu plus, un peu moins lues, pour essayer de faire résonner des débats qui restent un peu trop souvent cantonnés aux sphères de spécialistes. Voilà, donc c'est un témoignage, mais c'est un témoignage que j'ai essayé d'ouvrir à une réflexion un petit peu plus générale d'ordre social ou sociologique, comme tu viens de le dire.
Ok, super, merci pour cette info complémentaire importante quand même. Et ok, donc je vois, parce que moi je n'ai pas encore lu ton livre, vu que je ne l'ai pas encore reçu, mais je vais le lire parce qu'il m'intéresse beaucoup. Et tu dis donc le personnel est politique, phrase qui me parle évidemment. Et selon toi, quel débat manque justement dans la sphère, comment dire, sociale? Enfin, quel débat on n'entend pas peut-être que toi tu as voulu partager?
Oui, alors le débat qu'on n'entend pas, ou en tout cas qu'on a pu entendre il y a quelques années, notamment justement dans ces fameuses années 60-70, où il y a eu énormément de débats autour du droit de chaque femme et de chaque homme à disposer de son corps, en fait, et à façonner son existence comme il ou elle l'entendait. Enfin, il y a eu des débats de ce type-là dans les années 60-70. Il y avait notamment un grand slogan qui s'affichait sur les pancartes, qui était « Un enfant quand je veux, si je veux ». Or, donc la partie « quand je veux » a été abondamment traité, a été défendu, hein, notamment par la défense du droit à l'avortement. Mais les personnes qui, au sein de ces mouvements féministes extrêmement riches, avaient interrogé le droit à ne pas vouloir d'enfant, ou tout simplement le non-désir de parentalité, hein, sans qu'il s'agisse forcément d'un droit, hein, l'absence d'envie, le désintérêt, sans que ça signifie forcément une détestation des enfants, au contraire, hein, même si ça peut parfois être un cliché, et bien ces débats-là ont été petit à petit étouffés. Et moi, ce qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est que donc, y a eu des voix, il y a eu quelques voix, notamment une psychologue, Edith Vallée, dont je trouve les travaux extrêmement intéressants, donc c'est VA2LEE, qui s'est intéressée sous l'angle justement psychologue, et en abordant des questions liées à la sensibilité, justement, à cette question du non-désir de maternité. Mais c'est un exemple que je donne dans mon livre, hein, elle a publié un recueil, hein, faisant le point sur ses travaux dans les années 80, à nouveau au début des années 2000, mais c'est vraiment un nom qui reste inconnu, même chez les spécialistes. Donc il me semble qu'on est vraiment dans une période, alors une période qu'on peut qualifiée de post-MeToo, hein, ce qui regroupe plein de réalités, mais on est quand même dans une période où de nombreux tabous liés au féminin, au corps féminin, sous tous ses aspects, commencent à tomber. Là, on l'a vu, hein, on s'est mis à aborder notamment la question du consentement, un autre thème très lourd qui est la question de la pédophilie. Et puis, de manière plus générale, il y a aussi une volonté d'aborder les expériences féminines de la manière la plus diversifiée possible. Un mot-clé intersectionnalité qui peut être compris de plein de manières différentes là encore. Et dans ce contexte extrêmement ouvert, il me semble qu'il manque quand même un élément clé du débat qui est bah, la question du non-désir de parentalité, qui est quelque chose qui est abordé dans d'autres pays, hein, notamment en Europe. Alors moi, j'ai fait mes études en Allemagne, c'était un sujet. En France, c'est quelque chose qui résiste encore. Voilà. Et donc, c'est ce qui explique voilà, ma volonté. Alors, pas du tout d'épuiser les termes du débat, mais de mettre ma petite pierre, là, de lancer une partie du débat en espérant que ces dialogues se poursuivent. Et je pense que l'entretien qu'on a en ce moment, c'en est une très jolie preuve.
Exactement. Ben, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est intéressant, là, j'irai voir pour Edith Vallée. Parce que du coup, alors, bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais rebondir, il faut que je choisisse. Tu as parlé un moment de sensibilité. Forcément, moi, ça m'intrigue vu que je parle aux hypersensibles. C'est vrai que moi, je me suis posé la question de est-ce que ce n'est pas souvent des femmes hypersensibles ou en tout cas avec une ouverture d'esprit qui remettent les choses en question qui ont plus souvent le non-désir d'être mère. Alors, je ne sais pas si tu as réfléchi à cette question, peut-être, ou si tu as eu des retours là-dessus. Ouais.
Oui, alors je ne sais pas, mais c'est intéressant justement qu'on ait cette conversation parce que ce n'est pas formulé exactement de cette manière-là dans les études. Alors, beaucoup d'études sociologiques et psychologiques en particulier que j'ai pu lire, hein, c'est un petit peu les deux grands champs universitaires qui s'intéressent à la question du désir, non-désir de parentalité. Un petit peu la psychanalyse, mais c'est surtout sociologie, psychologie au sens plus traditionnel, on va dire, et revient très très souvent dans ces études. Alors, je pense qu'on pourrait, en fait, le qualifier de sensibilité. Une perception particulière de la liberté. Ou en tout cas, l'idée que la liberté, alors c'est parfois très idéal, hein, très idéaliste, mais l'idée que la liberté, qu'elle soit individuelle, collective, qu'elle concerne la manière de s'investir dans la société, enfin toutes ces approches de la liberté puissent être menacées par l'arrivée d'un ou de plusieurs enfants. Voilà. Et alors, ou pour le dire de manière peut-être un petit peu plus positive, c'est aussi comme ça que c'est formulé dans les études, les non-parents par choix ont, selon la plupart des études sur le sujet, très souvent un besoin de liberté qui est plus net que les parents par choix. Voilà. Ouais. Alors après, ça ne peut pas du tout dire que le fait d'être parent, hein, supprime la liberté. Mais on va dire qu'il y a une forme d'idéal de la liberté qui est sans doute plus incarnée, plus marquée chez ces personnes-là. Avec tous les clichés que ça peut impliquer, hein, parce qu'on peut aussi considérer la liberté de manière très idéaliste. Et ce n'est pas parce qu'on a cette sensation de liberté qu'on n'est pas... Enfin, moins limité par la société dans laquelle on vit. Ça, c'est clair, on est limité par tellement de choses, que c'est d'un point de vue symbolique, social, genré, anthropologique, enfin, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il y a cette sensibilité particulière à la liberté qui ressort en tout cas des études sur les non-parents par choix. Ouais.
Exactement.
Donc, je ne sais pas si on peut l'interpréter comme une forme d'hypersensibilité, mais je pense qu'on peut l'interpréter comme une forme de sensibilité, en tout cas. Ça, c'est sûr.
Okay. Tout à fait. Je vois. Parce que moi, je fais un lien là, dans mon côté coach. Mais bon, après, il faudrait que je regarde s'il y a des études là-dessus par rapport à la liberté. Parce que, en fait, j'ai des questions qui sont revenues de mon audience, là, des hypersensibles. Et en fait, il y a beaucoup d'hypersensibles, donc on ne sait pas encore trop aujourd'hui. Il y en a qui disent que c'est inné, et il y en a qui pensent que c'est acquis parce qu'on aurait eu des traumatismes, etc. Et du coup, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, enfin qui m'ont dit, est-ce que tu peux lui demander si finalement ce choix-là, donc ça se trouve pas du tout, est dû justement au fait d'avoir vécu des traumatismes, et du coup d'avoir un besoin vraiment de... Elle revient souvent à cette question ou pas? très fort, quoi.
Oui, et à vrai dire, c'est aussi quelque chose, une explication qu'on amène très souvent dans le cas des personnes qui ne veulent pas d'enfants, très rarement dans le cas de celles qui veulent des enfants. Or, notre enfance, je ne vais pas te la
raconter,
c'est quelque chose d'absolument déterminant, mais pour tout le monde, pas pour celles et ceux qui ne veulent pas d'enfants. Et ça, c'est vrai que c'est un... ce que je pourrais qualifier ça de cliché. Ça ressort très souvent dans les études psychologiques sur le sujet. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfant qu'on a subi un traumatisme. Par contre, on peut très bien vouloir un enfant parce qu'on a subi un traumatisme et chercher une forme de réparation. Donc, en fait, on peut... Il y a autant d'explications et d'origines possibles que d'hommes et de femmes. Et c'est aussi ça que j'ai essayé d'un petit peu montrer dans mon livre en expliquant que il n'y a pas une raison, justement. Il n'y a pas une explication. Là, j'ai amené cette idée de la sensibilité à la liberté. Y en a aussi une autre qui se développe de plus en plus dans ce qu'on peut appeler les plus jeunes générations, hein, même si, là encore, hein, il faudrait distinguer tout ça, mais qui est... Alors, pas forcément une sensibilité d'ordre écologique au sens strict, mais en tout cas une inquiétude quant à l'avenir de nos sociétés. qui peut prendre plus ou moins, alors qui peut prendre des traits écologiques militants ou non. Et ça, c'est aussi une explication qui revient souvent. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas d'enfants parce qu'ils ont peur de surpeupler la Terre. Ça peut être une raison, mais là encore, c'est assez schématique parce que dans cette idée d'une crainte quant à l'avenir, il n'y a pas forcément, il n'y a pas toujours quelque chose de militant ou de lié à l'écologie dans un sens politique stricto sensu. Moi, je donne l'exemple, alors je donne mon exemple, mais je donne aussi l'exemple d'autres personnes que j'ai pu interroger autour de moi, qui est suite à la pandémie. On se demande à quand une nouvelle pandémie, à quand une nouvelle vie sous cloche. Alors, bien évidemment, il y a des enjeux écologiques dans tout ça, hein, surtout quand on pense aux premières explications quant au surgissement de ce virus. Mais voilà, c'est vrai que je pense que, bien évidemment, il y a des explications d'un comportement qui sont notamment à chercher dans l'enfance. Mais elles sont aussi diverses et variées que nous autres hommes et femmes. Et oui, dans certains cas, il peut y avoir un traumatisme, mais dans certains cas, tout simplement non. Et c'est aussi pour ça que je me suis mise un peu en scène dans mon livre de ce point de vue-là, parce que moi, c'est complètement le contraire. Moi, j'ai grandi auprès de parents que je pourrais qualifier de féministes au sens large, qui ont tout fait pour que j'ai les mêmes chances que les garçons de mon époque. Moi, je suis née en 85, hein, donc je ne suis pas beaucoup plus vieille que toi, mais je pense que dans les années 80, ce n'était pas non plus exactement les mêmes configurations qu'aujourd'hui quant à l'ouverture au sujet des droits des femmes, de la place des filles dans la société, etc. Je pense qu'il y a eu quand même une petite évolution depuis.
Ouais.
notamment par rapport au jeu dans la cour de récré, c'est ce que je raconte aussi dans mon livre, c'est systématiquement la poupée. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Mais voilà, donc en tout cas, pour revenir à la question du traumatisme dans l'enfance, moi je pense que c'est justement parce que j'ai une famille qui m'a laissé un petit peu tous les choix ouverts que j'ai osé aller dans cette voie. Alors, aucune famille n'est exempte de problèmes, mais c'est ce que je dis dans mon livre. Moi, j'ai grandi auprès d'une mère féministe et auprès d'un père également féministe, soucieux de l'éducation de ses filles. Ma petite sœur, de son côté, veut des enfants. Donc voilà, je ne vois pas là un traumatisme, je vois simplement un parcours de vie, des choix de vie qui m'ont poussée à un moment vers ce désir de ne pas avoir d'enfants.
Voilà, c'est ça. Oui, et j'avais vu une interview de toi qui disait que finalement, c'était difficile même de mettre des mots et que tu utilisais le mot non-désir, mais que c'est vrai que, ouais.
C'est super difficile. Oui, oui, mais oui, c'est ça, et c'est vrai que, alors, après, quand on dit « j'ai pas envie », le risque, c'est qu'on passe pour la petite égoïste qui fait un caprice, donc c'est très compliqué, et alors, bon, je peux spoiler quand même ce petit élément de mon livre,
ouais,
en fait, ça part de ça, au début, j'explique, je trouve pas les mots, tu dis « non-désir »,« non-choix », dans le domaine démographique, on parle d'infécondité volontaire, dans le domaine médical et ou zoologique, on parle de nulliparité, il y a l'étymologie nullus, nul dedans, alors qui signifie une femme ou une femelle qui n'a pas accouché. C'est un quelque chose qui est censé être neutre, ça ne l'est pas du tout, puisque les mots forgent notre vision du monde. Et je pars de ça au début, et je cherche un petit peu à trouver les mots. Alors, je passe par l'expression anglaise « child free », où il y a ce suffixe un petit peu plus positif, donc pas « childless », mais « child free », donc la liberté de ne pas avoir d'enfant. Et puis, je termine en disant que ben, finalement, il existe déjà un mot tout simple pour désigner les femmes qui ne veulent pas d'enfant. Tout simplement, c'est le mot « femme ». Le mot « femme », on peut être une femme sans vouloir être mère. Simplement, pour que ce mot « femme » ne soit pas systématiquement associé à la maternité, il faut qu'on œuvre notamment à développer l'idée d'une parentalité partagée entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui fait encore défaut, en particulier dans le contexte français. Mais donc, il existe ce mot. « Femme » existe. Voilà. Une femme n'est pas forcément une mère. « Femme » existe. Et donc, je termine là-dessus. Alors après, peut-être, j'espère aussi qu'une sorte de brainstorming général pour qu'on trouve d'autres mots. Hein, et pas... Alors, je ne suis pas du tout contre l'anglais, mais c'est vrai que je trouve ça dommage qu'en français, il n'y ait pas d'autres mots. Mais femme, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est un bon début.
J'adore. Non, mais c'est vrai parce que finalement, je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est juste, on peut juste dire femme sans que ça suggère qu'on ait des enfants ou qu'on en veuille. Donc, c'est hyper intéressant.
Sans qu'on soit forcément ramené à son utérus, hein, tout simplement.
Oui, encore une fois. Ouais,
ça, c'est important, mais ça ne constitue pas toute notre identité féminine.
Ça, c'est un gros sujet aussi, ça. Gros sujet. Je viens de penser à un truc. Je pense que je vais te dire les phrases que mes abonnés ont entendues le plus souvent. Ouais, tu me diras lesquelles tu as entendu, bon, à tous les coups, sûrement toutes. Moi-même, c'est mon cas. Donc, voilà. Alors, Celle-là, elle m'a vraiment surprise, mais j'ai vu que tu l'avais aussi entendue. C'est il n'y a rien de plus important dans la vie, ça donne du
Ah.
sens à la vie. Alors, moi,
Ah
ça
oui, tout à
m'a choquée,
fait.
moi. Moi, ça m'a choquée,
Ah
mais.
oui. Ouais. Oui, l'idée qu'en fait, il faudrait transmettre forcément par sa chair et son sang pour que cette transmission ait un sens. À mon avis, derrière cette remarque que j'ai aussi entendue, hein, ou alors la variante, c'est mais si tu n'as pas d'enfant, quel sens a ta vie? Il me semble que derrière ça se cache l'idée. Alors, se cache forcément le soupçon d'égoïsme, hein, quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas d'enfant, mais se cache aussi l'idée d'une transmission qui passerait forcément par la parentalité, me semble-t-il. Et ce type de phrase, en fait, ça relève d'une forme d'inquiétude. Mais comment, alors ça peut être parfois les parents ou les amis, comment mon ami, mon fils, ma fille peut-il transmettre sans donner la vie? Rien que cette expression donner la vie, hein, ça veut tout dire. Hein, c'est quand on refuse de donner la vie, on est égoïste. Et je pense que ça se cristallise vraiment autour de cette question de la transmission. Alors, je suis enseignante-chercheuse, c'est aussi ce que je te disais, c'est aussi tout un parcours, mais peut-être que si je n'avais pas été enseignante, j'aurais pu ressentir une autre envie de transmission. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que mon cas fait qu'il est tout à fait possible, ou montre qu'il est tout à fait possible de transmettre sans devenir père, sans devenir mère. Donc voilà, effectivement, ce type de remarque, oui, enfin, qui est presque philosophique, hein, elle peut être parfois choquante, mais quand on considère ça, voilà, une conception assez figée de ce que peut être la transmission, qui s'explique aussi, alors là, de manière un peu plus sociologique, hein, par bah, le fait que notre société, nos sociétés surtout occidentales, se resserrent de plus en plus autour du noyau familial. Et ça, on l'a vu de plus en plus au moment de la crise. Hein, c'est vraiment la famille, cette norme du faire famille qui constitue, on va dire, le seul critère ou en tout cas le seul contexte associé à la transmission, si tu veux. Voilà. Et je pense que si on considérait que la transmission peut passer par plein d'autres façons différentes, hein, ben, bon, l'enseignement, là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, hein, ce dialogue, l'engagement social, plein de choses. Alors, et on n'est pas non plus obligé de s'engager de manière militante, hein, voilà, ça c'est aussi le sujet. C'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfants qu'on est une féministe militante, mais je pense que si l'idée était un petit peu plus admise en France, parce que c'est différent à l'étranger, où il y a une vie associative, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne, qui est beaucoup plus développée qu'en France. Je pense que si on acceptait un peu mieux l'idée que la transmission n'était pas limitée au noyau familial et à la parentalité, ce type de remarque serait un petit peu moins fréquent.
C'est vrai, je trouve ça hyper intéressant parce que moi j'avais vraiment eu ce sentiment que, selon le point de vue de ces personnes en tout cas, c'était vraiment le besoin de laisser une trace finalement sur Terre. Moi souvent je leur dis, bah du coup c'est un peu égoïste aussi. Mais bon bref, ça c'était encore autre chose. Et oui, c'est vrai qu'il y a mille manières de transmettre quoi, ou de laisser une trace après notre passage sur Terre. Donc je suis d'accord. Et j'adore la nuance, c'est hyper important. Donc on en manque je trouve aujourd'hui, donc trop bien. Une autre remarque qui est, je vais t'en dire plusieurs. Alors, autre remarque, c'est celle que j'entends le plus pour ma part, c'est tu es encore jeune, tu as le temps de
Ah.
changer d'avis.
Oui, grand classique.
Ouais.
Mais t'es sûr que tu vas pas changer d'avis? Alors moi au
C'est
début
ça.
c'était tu es encore jeune et donc là j'ai eu 36 ans il y a quelques mois, c'est plutôt tu vas peut-être le regretter parce que comme j'ai passé la fameuse date de péremption, n'est-ce pas, 35 ans selon le discours de nombreux gynécologues, c'est vrai que ça a mué, c'est passé de tu es encore jeune à ah mais tu vas le regretter. Ben oui effectivement, hein, et ça c'est quelque chose là encore hein, qu'on entend très 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 rarement formulé envers des personnes qui souhaitent avoir des enfants. Le regret est toujours associé au fait de ne pas avoir d'enfants. En tout cas, très souvent associé au fait de ne pas avoir d'enfants, très rarement au fait d'avoir des enfants. Et ça, là, la France a encore vraiment du pain sur la planche, puisque je parle aussi dans mon livre, alors d'un ouvrage que j'estime vraiment être l'un des plus importants ouvrages féministes des dernières années, qui est Le regret d'être mère,
Ah, trop
d'une
bien.
sociologue israélienne qui s'appelle Orna Donat. Alors, vous pourrez regarder sur Twitter fin mars, il y a eu tout un débat autour du hashtag. Alors, je ne sais plus si c'est regret maternel ou regret d'être mère. Et dans ce contexte-là, des femmes se sont exprimées, alors, en dissociant l'amour qu'elles éprouvent envers leurs enfants et en fait leur déception quant à l'idéal d'un accomplissement féminin qui passerait par la maternité. C'est ça que dit ce regret maternel. C'est ben, leur déception plus ou moins plus sociale. Et c'est beaucoup plus puissant que plus pouvoir sortir tous les week-ends. Ou, voilà, c'est vraiment leur déception quant à cet accomplissement déçu, finalement. Et alors, bon, là, il y a eu quelques traces de ce débat sur Twitter, mais il faut savoir que ce livre est sorti bien avant, hein, et qu'au moment de sa sortie, alors, je crois que je ne sais plus exactement les dates de la traduction, mais bon, j'ai tout récapitulé dans mon livre. Il y a eu un énorme débat au moment de la traduction en Allemagne. En France, c'est passé totalement inaperçu. Je crois que c'est 2010.
Ouais, j'ai remarqué aussi. Ouais.
Il y a eu quelques petits entretiens par-ci par-là, c'est passé totalement inaperçu, parce que là encore, le regret d'être mère, c'est l'un des grands tabous encore aujourd'hui. Et donc, quand tu dis, est-ce que tu ne vas pas le regretter, bah, on pourrait se dire, mais oui, toi qui as des enfants, est-ce que tu ne pourrais pas le regretter un jour? Mais là, on voit encore que les personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants sont minoritaires et que du coup, c'est très, très compliqué de répondre cela à une personne qui vous dit « mais est-ce que tu ne vas pas le regretter ?» Parce que quand on dit « oui, et vous, et toi, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez le regretter d'avoir des enfants ?» ou « est-ce que vous ne pourrez pas le regretter un jour ?» Alors là, tout de suite, on passe pour froide, aigrie, méchante et tout ce qu'on veut. Parce que le regret est forcément associé au non-désir d'enfant. Et là encore, c'est quelque chose qui me semble falloir questionner. Le regret peut s'immiscer partout, enfin, je veux dire, dans tous nos choix de vie. Mais tout de suite, c'est cette idée-là. Tu es encore jeune, ou plus tard, quand on vieillit un petit peu plus, tu pourras regretter ton choix. Il y a l'idée que c'est un choix qui relève soit du caprice, soit d'une mauvaise décision. On ne reconnaît pas la légitimité de ce choix en tant que tel.
C'est hyper intéressant parce que là, ce que tu dis, ça pose les mots sur un truc que je me suis dit, mais je n'arrivais pas à expliquer. Parce que j'ai pas mal de personnes, alors la plupart ont été super bienveillantes, et j'en ai d'autres, alors peut-être pas malveillantes, mais voilà, qui disaient souvent, en gros, je suis heureuse pour elle, enfin, tant mieux pour elle, si c'est son choix du cœur. Et il y avait toujours ce petit truc, genre, si son cœur le dit, si... Et je me disais, bah... Enfin, je sais, j'arrivais pas à comprendre le truc derrière, mais pour moi, il y avait un petit truc qui buguait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, et puis bon, comme si... on est des êtres situés, nous sommes des êtres sociaux, même si le social n'explique pas tout. Enfin, un choix du cœur, je veux dire.
Oui. Ça veut dire quoi, en fait ?
Il y a tellement, surtout dans la question de la parentalité, ça renvoie à des schémas totalement anciens, ataviques, ce choix ou non. Nous sommes de toute façon programmés pour avoir des enfants par les mères, grand-mères, arrière-grand-mères qui nous ont précédés. Donc déjà, il y a quelque chose de l'ordre de l'anthropologie, il y a quelque chose de l'ordre du social, il y a quelque chose aussi, bien sûr, de l'ordre du cœur, mais ce cœur peut être lié au compagnon et à la compagne avec qui on vit, qui n'a peut-être pas non plus forcément envie d'avoir des enfants. On peut estimer que c'est un choix qui se prend à deux. Ça peut être lié aussi à tellement de facteurs. Le cœur seul me semble quand même... Enfin, ça me semble un petit peu naïf de considérer que seul le cœur amène à ça. Comme de dire qu'on veut un enfant parce que ses tripes l'expriment. Oui, d'accord, il y a quelque chose peut-être de très intuitif qui peut se développer. Mais l'intuition pure, dans la mesure où nous sommes quand même des êtres situés, des êtres sociaux, ça me semble quand même pas la seule raison, pas le seul facteur qui explique ce désir ou non-désir. C'est pas uniquement un désir, c'est pas uniquement un non-désir, c'est plus complexe que ça, en fait. Hein. Et on emploie ce mot de désir-choix, même moi je l'emploie pour trouver une manière de s'exprimer, pour savoir de quoi on parle, mais dire que si c'est le choix du cœur... Oui, et en plus, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que oui, tu es encore jeune, tu vas changer d'avis, mais d'autre part, ces personnes qui t'ont dit ça emploient un vocabulaire qui est finalement assez naïf, assez enfantin. C'est le choix du cœur.
Oui, en fait, c'est comme... voilà, c'est un gros sujet, en plus, la question du choix. Mais pour moi, forcément, vu mon métier, pour moi, il y a une grande partie inconsciente. Et comme tu disais tout à l'heure, quand tu parlais des traumatismes, pour moi, une personne peut totalement faire un enfant pour répondre à un traumatisme, par exemple.
Exactement.
Donc, c'est vachement complexe, hein, franchement.
Mais exactement.
Oula.
Ah ouais, tout à fait.
Enfin, si on dit à une personne, justement, comme tu disais, si on lui retourne la question... Et toi, est-ce que tu regretteras pas finalement d'en avoir fait ou quelque chose comme ça? Je pense que ça va... Fou, ça se... Voilà la question.
Ouais. Mais du coup, alors bon, moi j'avoue, je ne le fais pas très souvent parce que ça blesse. Je l'ai fait avec de très bonnes amies, mais c'est justement ça le problème. Je pense que si on osait, alors j'ai aussi tout un chapitre que j'ai intitulé Le cran qui manque, où j'explique que j'ai du mal aussi à trouver des stratégies d'esquive parce que je suis pas quelqu'un d'agressif et j'ai tendance en fait à. Voilà, alors, je ne sais pas si je suis hypersensible, mais en tout cas, je suis quelqu'un de sensible et j'ai tendance à ne pas vouloir blesser mes interlocuteurs, interlocutrices, mais je pense que la plupart ne se rendent pas compte qu'elles nous blessent de manière.
Ah oui.
Pas forcément, c'est pas forcément volontaire. Et quand on retourne ces questions avec de bonnes amies, là, les personnes s'en rendent compte. Et c'est vrai que les amis qui ont lu mon livre, mais oui, mais je me suis rendu compte de ce que tu subissais. Alors, c'est pas du tout quelque chose d'affreux, de dramatique, hein. Je fais aussi dans mon livre une comparaison avec le contexte notamment sud-coréen et le contexte nigérian. Alors, nigérien, pardon. Pourquoi? Parce que le Niger est le pays où il y a des plus forts taux de fécondité au monde et que la Corée du Sud est l'un des pays où l'écart de salaire homme-femme est le plus marqué. Donc, voilà. J'explique que c'est pire ailleurs. Mais le fait que ce soit pire ailleurs ne doit pas nous amener à nous désintéresser d'ici, parce que ça peut être très dangereux. Et plus on regarde vers le bas, plus on peut se faire grignoter comme ça son libre arbitre, sa volonté, sa personnalité, quoi. Et c'est vrai que ouais, j'étais assez étonnée de voir que, même si je m'en doutais un petit peu, mais que mes amis proches, les personnes, mes proches, ont vraiment pris conscience de la violence de leurs remarques en lisant mon livre, qu'elles ne s'en rendaient pas compte, parce que, comme tu le dis, dès qu'on retourne la question, ça engage des choses très profondes qu'on n'a pas l'habitude d'associer aux personnes qui veulent des enfants. Parce que ça paraît une évidence d'avoir un enfant. Et comme ça paraît une évidence, on ne l'interroge pas.
Je vois ce que tu veux dire. C'est marrant parce que pour moi, ce n'est pas du tout une évidence, évidemment. Sinon, je ne m'intéresserais pas aussi au sujet.
Enfin, d'un point de vue social, sociologique, quoi, d'un point de vue en France, oui, une évidence, on va dire, parce que on estime à 4,5% le nombre de femmes âgées de 18 à 79 ans qui ne veulent pas ou n'ont pas voulu d'enfants.
Ah, je voulais te demander.
Voilà, alors ce sondage remonte à 2016, hein, il était publié en 2016, les données sont un petit peu plus anciennes, l'échantillon de personnes interrogées n'était pas non plus énorme. Bon, à mon avis, il faudrait réactualiser, alors je ne suis pas démographe, donc je ne veux pas faire des prédictions, mais il faudrait le réactualiser, hein, parce que je pense honnêtement que la crise sanitaire a laissé des traces, hein, même auprès des personnes qui voulaient éventuellement d'autres enfants. Bon, mais je ne suis pas démographe, donc je ne veux pas faire de prédictions. Mais donc, d'un point de vue sociologique, 4,5%, ce n'est pas énorme. Alors, cela dit, quand on fait un petit produit en croix, ça fait quand même plus d'un million de femmes, donc ce n'est pas rien. Et quand on ajoute à cela les femmes qui ont déjà un ou deux enfants et n'en veulent pas d'autres, qui elles aussi subissent une partie des injonctions que les femmes sans enfants subissent, ça fait quand même plusieurs millions. Donc ce n'est pas rien en termes de quantité, mais c'est vrai que par rapport à la majorité, ça reste une minorité en termes de chiffres, et c'est aussi, je pense, pour cette raison qu'il est plus difficile de s'imposer. Et ça rejoint, je veux dire, le fait de la déviance d'un point de vue social ou sociologique, hein, quand on n'appartient pas à la norme, c'est plus compliqué. Hein. C'est de ce point de vue-là que je parlais d'évidence. Hein. Moi non plus, pour moi, ça n'est pas du tout. Mais d'un point de vue sociologique, on appartient quand même à une frange marginale de la population française. Voilà.
Oui, carrément.
Et donc forcément, c'est plus compliqué.
C'est vrai que moi, je ne m'en rends même pas compte, mais après, quand j'en parle avec des gens, là, je m'en rends compte. Je me dis, waouh, ils n'ont jamais, enfin, elles surtout, n'ont jamais questionné ça. Et moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Mais bon, comme quoi, on ne se comprend pas dans les deux sens, mais voilà. Mais c'est super intéressant.
Mais moi, c'est pareil. Hein, je n'arrive pas à comprendre comment la plupart de mes amis se sont jamais posé la question. Enfin, les questions que impression de décalage. Là encore, je ne veux pas tout ramener au social, mais qui s'explique aussi par le fait que nous sommes une minorité, quoi. Et donc, forcément, ce décalage est valable dans les deux sens, quoi. Tout à fait.
Exactement, parce qu'il y a une fille, justement, qui a répondu là dans mon sondage. Elle a dit « C'est tellement ancré en moi depuis petite de vouloir être mère que j'ai du mal à comprendre qu'on n'en ait pas envie. »
Mais c'est
l'inverse. Je me suis dit, pour ma part, je me suis dit, peut-être qu'un jour j'aurai envie, je ne sais pas, je laisse porte ouverte, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, ça penche quand même plus vers un non. Mais je comprends du coup que peut-être des personnes ne le questionnent même pas, si on n'en parle pas en fait. Hein. Enfin, je me pose la question. Bon, ça, c'est, j'ai pas de données là-dessus, mais voilà. Et
Non, mais
aussi,
c'est pour ça que c'est important d'en discuter, hein, parce que, alors,
ouais, c'est ça.
c'est aussi pour ça que même pour les personnes qui veulent des enfants, là, je cite le propos d'une très bonne amie qui a lu mon livre et qui est mère de deux enfants et qui m'a dit, tu sais, moi, ça m'a permis de questionner mon désir, mon envie d'être mère. En rendant mon désir à ce qu'il était vraiment, à savoir un désir. Et le fait de me positionner par rapport à ça, ben là, je me suis rendu compte que oui, vraiment, je voulais être mère. Et le fait de voir toutes les questions que tu t'es posées, alors de me positionner en miroir par rapport à toi, miroir inversé, c'est toujours inversé un miroir,
Oui.
mais de me positionner en opposition par rapport à toi, ça m'a aidé à ramener le désir d'enfant à ce qu'il était un désir et non pas une obligation. Hein. Alors, même si, bien sûr, le désir n'est pas qu'un désir, on l'a dit, hein, c'est toujours influencé par plein de facteurs, mais je pense que parler de ça, il ne s'agit pas du tout de diaboliser la parentalité, ni de dire qu'il ne faut plus faire d'enfants, ce n'est pas du tout le but,
Ouais, c'est important, c'est vrai.
mais de questionner, en fait, ben, ce que c'est que la parentalité, quoi, tout simplement. Et questionner ce qu'est la parentalité, ben, ça impose de questionner ses limites, à savoir la parentalité problématique, la parentalité rejetée, le non-désir de parentalité, pour circonscrire un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'en parler tout simplement, hein, sans imposer son choix, et surtout sans chercher à, comment dire, à rationaliser forcément le choix de l'autre, quoi. Et en tout cas, sans chercher à trouver une raison et encore moins une raison négative. Ça, je pense que c'est assez important et c'est souvent quelque chose qui apparaît dans les débats, les discussions. On se rejette comme ça, on retourne les assignations à l'envoyeur, quoi. Et c'est vrai que ça me semble un petit peu dommage. Après, c'est compliqué parce que ça renvoie à quelque chose de tellement profond, tellement ancré, comme tu disais, que parfois on ne peut pas s'en empêcher.
Mais
Mais
exactement.
bon.
Non, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, je crois pas qu'on m'ait déjà demandé pourquoi tu n'en veux pas, mais en me demandant les côtés positifs, hein. Je
Ouais,
pense
ouais,
jamais. Et c'est vrai que ça peut, enfin, souvent j'entends parler de, enfin, comment dire, quand je parle moi de mon non-envie, il y a des personnes qui pensent après que je critique leur envie. Et je dis, ah non, mais pas
ouais.
du tout. Moi, je m'en fiche. Enfin, faites ce que vous voulez. Justement, moi, je n'essaie pas de convaincre. Enfin, comme tu disais, quoi, j'essaie pas de convaincre, en tout cas, pour ma part, de pas. Enfin, aux femmes, je n'essaie pas de convaincre les femmes de ne pas avoir d'enfants. Voilà, c'est ça
Ouais.
que je voulais dire. Mais plus qu'on puisse en parler librement, quoi.
Ouais.
Et après, alors, il y a plein d'autres questions, mais je sais qu'il y en a plein auxquelles tu as répondu, donc j'essaye de trouver un petit peu une différente. Mais bon, malheureusement, cette question revient souvent. Ben justement, c'est des femmes qui, elles, sont en questionnement et qui penchent plus vers un non. Et leur peur, ben, c'est d'être seule en vieillissant.
Ah
Voilà,
oui,
toujours,
grand classique.
ça revient. Voilà.
Est-ce que tu n'as pas peur de finir seule? Moi, c'est la
C'est
première
ça.
remarque que j'ai, la première question que j'ai entendue.
Ah ouais.
Quand je suis revenue d'Allemagne après mes études où le choix ne s'était jamais posé. Là, je rentre en France, je revois une copine de lycée. Première question, mais est-ce que tu n'as pas peur de finir seule? J'étais en plein dans mes études, j'avais commencé ma thèse, enfin, c'était juste pas un sujet. Et là, tu veux pas d'enfant? Bah non. Est-ce que tu n'as pas peur de finir seule? Donc, j'ai retenu aussi cette question parce que c'est la première qui m'a été
Ouais.
jetée à la fille, ma solitude future. Bah, alors, bon, là, c'est vrai que spontanément, ce qui me vient, c'est mais parce que tu ou vous pensez que c'est parce que vous avez des enfants que vous ne finirez pas seule. Enfin, je veux dire, j'ai quelques amis qui travaillent en maison de retraite. Il suffit de voir les
Ouais, c'est
personnes
ça.
isolées auxquelles leurs enfants ne rendent pas visite. Et puis, de manière plus générale, je ne pense pas qu'on fasse des enfants pour s'en servir comme des bâtons de vieillesse.
C'est ce que j'étais en train de me dire.
Voilà. Mais alors, une image un peu plus positive, que là
Oui.
encore, j'ai été confrontée à cette image en Allemagne, justement, et c'est ce qui me donne de l'énergie, et j'en parle aussi pour donner de l'énergie, justement, la colocation de personnes âgées. J'ai fait la connaissance d'une prof d'histoire de l'art, une prof d'histoire de l'art, quand elle est partie à la retraite, elle s'est installée avec sa cousine qui était veuve sans enfant et une amie hein, qui n'avait jamais voulu d'enfant, toutes les trois dans une colocation. Et alors, j'étais allée les voir quelquefois. Alors, bon, forcément, elles étaient toutes les trois un petit peu artistes sur les bords, cinéphiles. Magnifique appartement dans l'est de Berlin avec plein de plantes, de tableaux, d'œuvres d'art. Et alors, elles étaient très engagées. Elles donnaient des cours de langue à des réfugiés. Elles avaient une petite chambre de temps en temps qu'elles louaient à un prix modique à un étudiant, une étudiante. Je me suis dit, bah voilà, c'est l'image qui me vient en tête quand je pense, moi, plus tard. éventuellement seule. Hein. Alors bon, j'espère, cela dit, que je pourrai partager le quotidien de mon compagnon le plus longtemps possible, mais bon, c'est vrai qu'il faut aussi voir autre chose. Et je m'imagine comme ça, je m'imagine dans une coloc de vieille. Et c'est vrai que je trouve que, enfin, moi, c'est une très belle image qui me vient dans ces moments. Ouais. Forcément, j'ai aussi quelques doutes, je me pose des questions. Parce que forcément, on est tellement cerné par toutes ces remarques, ces questions, que ça arrive qu'on se dise, bon, mais finalement, est-ce que je vacille pas un petit peu, hein. Je le raconte aussi, ouais. Je vacille.
C'est hyper intéressant, parce que j'ai eu cette question, justement. Est-ce que ça t'arrive quand même de douter, de te dire, oh là là, peut-être qu'en fait, je suis à côté de la plaque, ou des trucs comme
ça. Oui, et alors, il y a un moment où ça m'arrive, c'est quand je reçois sur mon téléphone portable les photos de tous les bébés de mes copines. Alors ça se diversifie de plus en plus à mesure, ça a commencé à 32-33 ans. Parce que, en fait, j'ose pas les mettre à la corbeille, à la poubelle, les supprimer, parce que j'ai peur un petit peu irrationnel de blesser les amis. Et alors, ces bébés commencent au bout d'un moment à tous se ressembler, alors chose qu'il ne faut surtout pas dire aux amis concernés. Je dis, oui, c'est vrai, bon, finalement, est-ce que peut-être, je ne suis pas à côté de la plaque. Mais ce que je remarque, c'est que ces moments-là surviennent souvent quand je suis fatiguée, quand je viens d'avoir une discussion un petit peu agressive ou un peu, je me suis sentie attaquée dans mes choix. Et puis, ces moments me rappellent aussi ça où je me dis, mais est-ce que j'ai choisi le bon métier, quoi ? Alors, c'est tout bête, hein, je ne veux pas du tout comparer ces choix-là, mais plein. Enfin, moi, j'ai toujours voulu être médecin et j'ai une peur bleue du sang et je n'ai pas pu. Des moments où je me dis, mais finalement, surtout quand je me retrouve avec des paquets énormes de copies à corriger, est-ce que je n'aurais pas pu faire un autre métier ? Est-ce que je n'aurais pas pu rester vivre à l'étranger ? Tous ces choix, en fait, qui sont, à mon avis, des choix existentiels.
Oui, c'est
et je pense que ces moments de vacillement, d'hésitation, je vais dire quelque chose, c'est un petit peu pompeux, mais ils nous renvoient finalement à notre finitude, quoi. Oui. Nous sommes des êtres finis, nous ne pouvons pas tout vivre, nous ne pouvons pas tout faire. Et moi, il me semble assez frappant que les moments où je me dis, est-ce que je ne suis pas à côté de la plaque, ce n'est pas si éloigné des moments où je questionne ma vie professionnelle, la vie où je veux vivre, enfin tant d'autres choses qui finalement nous renvoient, elles renvoient à l'idée que il faut faire des choix. Et que plus on vieillit, plus il faut faire des choix. Et on n'est pas comme à 18 ans où tous les possibles sont ouverts. Et oui, c'est vrai qu'il y a une forme de... Alors, je ne sais pas, je ne sais plus comment je qualifie ça, mais une forme de nostalgie un petit peu, de vacillement quant à toutes ces existences possibles qui auraient été tant d'alternatives. Ouais. Je crois aussi fondamentalement que cette idée de manquer quelque chose, de rater quelque chose, est liée à une injonction qui est très contemporaine, qu'il faudrait absolument tout vivre. Il y a cette, surtout en France, cette omniprésence du double modèle de la femme qui travaille et qui a des enfants, qui en plus est sportive et épanouie sur tous les plans, etc. Et cette injonction très, très contemporaine à tout vivre, enfin, si tu veux, c'est plus celle qu'on avait dans les années 50 qui était la femme au foyer, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, ce prototype cliché de la femme au foyer est totalement dévalorisé. Hein. La femme qui ne veut pas d'enfants est dévalorisée, mais la femme qui en a beaucoup et qui ne travaille pas est dévalorisée aussi. Donc, il y a cette idée qu'il faudrait être performante en tant que femme sur au moins deux plans, qui est le plan privé, avoir des enfants, et en plus le plan professionnel. Et donc finalement, cette idée, est-ce que je ne suis pas à côté de la plaque ? Certes, il y a une forme de nostalgie par rapport à notre finitude, quelque chose qui est assez philosophique, mais il y a aussi le fait qu'on se frotte à ce modèle de la performance sur tous les plans. Là encore, on en revient au social. Je ne veux pas tout renvoyer au social, mais je pense que c'est cette double friction auquel on est confronté, surtout quand on est quelqu'un d'un peu dynamique, d'un peu parfois hyperactif comme moi. Je pense que tu vas
vu mon rythme de parole. Toute mon audience presque est comme ça. Ils vont être concernés. Là,
il y a cette idée que est-ce que finalement on n'aurait pas pu vouloir vivre autre chose ? Est-ce que on coche bien toutes les cases de ce modèle de la femme performante ? Et donc là encore, je pense que c'est pas juste. Une oscillation qui est purement individuelle. Et quand on met un petit peu ça en perspective, alors je ne dis pas que cette hésitation diminue, mais j'arrive à mieux l'expliquer, à mieux la comprendre. Et je me dis, j'ai peut-être ce sentiment d'être à côté de la plaque, mais dès que je me mets un peu à... Alors, pas forcément à déconstruire, mais à mettre les choses en perspective, je me rends compte, et il suffit que le lendemain, j'ai un peu mieux dormi, que je n'ai pas eu de conversation exaspérante avec une amie. Quand je vois ces photos de bébés, je me dis, mais c'est ridicule, ils se ressemblent tous, ça suffit. Donc, C'est vraiment c'est une question de moment, en fait. Une question de moment, et voilà.
C'est
Je
hyper
pense que...
intéressant, ouais, de le mettre en perspective. Ouais, enfin, de prendre un peu du recul peut-être sur notre réflexion. Et alors là, bah, pour le coup, là, les hypersensibles et au potentiel et hyperactifs, bon, il y a beaucoup de gens comme ça qui nous suivent. Je sais qu'ils ont souvent ce dilemme, moi je l'ai aussi, hein, de oh là là, j'ai envie de faire tellement de trucs dans ma vie qu'il faudrait que j'aie 10 vies, enfin bref. Et moi je sais que je me suis souvent posé la question de me dire si je visualise ma vie sans enfant, à quoi ça ressemble? Si je la visualise avec enfant, à quoi ça ressemble? Et comme tu dis, il y a aussi ce, ouais, le double modèle, ça c'est vrai que c'est, enfin pour moi ça me paraît presque impossible. C'est-à-dire que quand je m'imagine moi avoir un enfant à m'occuper, je ne me vois pas capable en plus de travailler. Enfin, moi, ça me paraît complètement compliqué. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui arrivent, et vraiment bravo là, s'il y en a qui nous écoutent.
Oui, mais
Parce que je ne
oui,
sais
non.
pas quoi, comment faire.
Mais
Enfin,
ça
ouais.
n'empêche pas. Enfin, moi, j'ai un immense respect pour
Ouais.
ces femmes qui arrivent à tout mener de front. Enfin, je suis dans un contexte universitaire où c'est quand même très lourd, hein, le métier d'enseignante-chercheuse. J'ai plusieurs collègues, hein, qui mènent de front les deux. Et alors, j'ai une admiration sans borne. Mais moi, je sais que j'en suis pas capable. Alors, il y a aussi une forme de perfectionnisme qui parleront sans doute à ta
Oui.
communauté. C'est qu'il y a ça. Une forme d'inquiétude. Je sais que moi, je suis une grande angoissée et il y a aussi ça qui entre en ligne de compte. Hein. Alors, surtout si j'avais une fille. Alors là, enfin, perfectionnisme,
Ouais,
angoisse. Et
bah
puis,
pareil.
le fait de vouloir dire ça se trouve, je suis
Ouais.
hypersensible. Je vais peut-être faire le test, en fait, que tu proposes sur le site parce que là, ça fait
Alors,
quand
c'est
même
pas un
pas mal
test
de choses.
officiel.
Ah bon?
Pas un test officiel parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais c'est les deux tests, on va dire, indicateurs les plus à peu près corrects que j'ai trouvés. Mais on
Je
pourra
vais
discuter si tu
peut-être
veux.
apprendre des choses aussi sur moi-même, tu vois.
Ah, c'est possible, hein. En plus,
Mais
là, si tu es une personnalité qui a beaucoup d'idées comme ça, c'est fortement possible.
ouais. Mais non, mais c'est ça aussi que je trouve vraiment chouette dans ce sujet, c'est que certes, ça concerne la parentalité, mais là, on voit dans nos discussions qui basculent vers le philosophique, le social, en fait, ça
Ça.
renvoie à tellement d'autres choses. C'est tellement, comment dire, primordial, fondamental, que ça nous permet de questionner tant de choses. C'est pas juste une interrogation d'ordre féministe, même au sens large. Ça questionne notre être au monde, nos choix, notre volonté aussi de bien faire partout. Alors là encore, ce perfectionnisme, c'est quelque chose d'individuel, mais est-ce qu'il n'est pas
Oui.
aussi en partie construit par la société? Donc, question rhétorique, si, bien sûr, un petit peu. Et voilà, enfin, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée. Alors là, je retombe sur une perspective genrée, mais en tant que femme, il faut en faire beaucoup plus, surtout dans le milieu professionnel, pour montrer que même si les choses évoluent un petit peu, mais moi je vois que le milieu universitaire est encore très fermé. On voit quand je me retrouve devant un amphi d'étudiants en licence, il y a quasiment que des jeunes femmes,
Eh oui.
deux, trois jeunes hommes en littérature. Par contre, au niveau de mes collègues professeurs, il y a beaucoup plus d'hommes. Donc, bon, c'est un fait qui montre que voilà, il faut s'imposer beaucoup plus, surtout quand on mène de front la parentalité et la carrière professionnelle, hein.
C'est vrai, ouais.
Sans forcément être une carriériste, hein. Moi, je suis pas. J'adore mon travail, mais je suis pas du tout. Je refuse de faire trop d'heures supplémentaires parce que j'estime que c'est quelque chose qui me. Enfin, je suis pas du tout une carriériste absolue au sens. Je suis une personne simplement normale qui
C'est
estime
ça.
que je ne peux pas tout
Exactement.
vivre de front. Parce qu'il y a aussi ce cliché, hein. Tu ne veux pas d'enfant parce que tu es carriériste, ou
Oui,
alors tu ne veux pas
matérialiste.
d'enfant
Ouais.
parce que tu es une intellectuelle, tu écris des livres, donc tu n'as pas besoin d'avoir d'enfant. Alors, autre cliché, comme s'il fallait, parce qu'on ne procrée pas, créer autre chose à la place. Comme s'il fallait qu'il y
Ah,
ait une compensation. Voilà. Mais donc ça, j'essaye aussi de battre sans brèche parce que j'estime que ça ne rend pas du tout justice à la plupart des personnes dans mon cas que j'ai pu interroger, dont j'ai pu lire les témoignages dans les recherches que j'ai consultées pour écrire mon livre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette idée en tout cas, je pense que ça revient assez souvent aussi chez les personnes dans notre cas, ce perfectionnisme extrême, le fait d'avoir plein d'idées tout le temps. Alors, pour te rassurer peut-être un
Oui.
peu, moi, ça s'est un peu calmé. Alors, je ne suis pas encore très vieille, mais ça s'est un peu calmé avec l'âge. Je pense que quand j'avais 20 ans, mais alors là, je faisais trop de choses en même temps. Là, ça s'est un petit peu calmé, mais je pense aussi parce que je me suis rendu compte de ça, de cette idée qu'on ne peut pas tout vivre, mais ça n'empêche pas que parfois j'ai ces vacillements. Et je pense que. Mais ce n'est pas grave, en fait, d'avoir ces vacillements.
Oui, c'est
Ça partie
ça.
de notre personnalité, du
Ouais.
fait d'être un être entier, et puis d'une volonté aussi peut-être de s'engager, de s'investir, de transmettre, quoi. Quand on a cette volonté de transmettre, je pense qu'on se demande, bon, est-ce que peut-être quand même j'aurais pas pu essayer, ou est-ce que j'aurais. Je pense fondamentalement, c'est peut-être très arrogant de ma part, hein, j'aurais été une bonne mère, hein, je pense que j'aurais été tout à fait, enfin bon, c'est cliché cette expression bonne mère, mais je pense que
oui,
j'aurais
bon,
été
on me
tout
le
à
dit
fait
beaucoup,
capable.
tu es une super maman.
Tu vois, enfin, moi, on me dit souvent que je suis maternelle avec les étudiants,
Ah.
etc. Enfin, tu vois. Mais oui, peut-être, mais ce n'est pas pour ça que j'aurais été heureuse et ce n'est pas pour ça que c'est forcément mon cheminement à moi. Mais c'est quelque chose que. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfants qu'on rejette toute idée de transmission, qu'on déteste les enfants, qu'on, voilà, mais
Ouais,
simplement,
c'est vrai.
on transmet différemment. On transmet différemment et on s'épanouit aussi différemment. On a le droit de s'épanouir aussi différemment sans que ce soit forcément égoïste, hein, cet épanouissement. Parce que
Oui, c'est
c'est en
important.
s'épanouissant et c'est en. Enfin, bon, pardon, j'ai envie de dire des généralités, mais je pense que le fait de vouloir aussi. Bon, mais ça parlera sans doute à ta communauté. C'est aussi en se gardant du temps pour soi, en s'écoutant et en cherchant à rendre justice à ce qui nous fait envie, plaisir à nous, qu'on emmagasine de l'énergie, pas de la puissance, de l'énergie qu'on peut ensuite redistribuer aux autres. Et le fait de toujours vouloir transmettre partout à tous les niveaux, c'est vrai que cette énergie, on la perd, quoi. Et moi, je sais que j'ai besoin de moments de solitude, j'ai besoin de moments où je refais des réserves d'énergie pour mieux transmettre. Et je suis persuadée, au fond de moi, alors c'est quelque chose de l'ordre de l'intuition, hein, c'est peut-être pas rationnel non plus, moi, je suis persuadée que si j'avais des enfants, je le serais. Je ne pourrais pas transmettre aussi bien par ailleurs, quoi. Voilà, mais.
Mais je pense que ça va énormément parler aux femmes qui nous écoutent. Mais vraiment, moi déjà ça me parle, donc voilà. Et comme tu dis, on peut pas tout faire, on peut pas tout transmettre. Et c'est vrai que, ouais. Enfin moi je me suis posé la même question que toi. Hein, de si là j'avais des enfants, c'est un peu horrible mon expression. Mais si j'avais des enfants dans les pattes là, moi ça, ah non c'est pas possible. Hein. Rien que d'imaginer. Avec tout ce que je veux faire, en tout cas pour l'instant, c'est not possible. Et justement, si on a envie de faire plein de choses, comme tu dis, peut-être plein, soit de recherche, enfin bref, plein de choses à faire. Et en plus, si on est anxieuse et en plus, si on est perfectionniste, alors là, c'est un autre problème. Hein. Parce qu'en plus, justement, chez les femmes, il y a un livre qui peut-être t'intéressera. C'est La femme surdouée de Monique de Kermadec. Et elle explique que les femmes à haut potentiel sont. Quant à son mère, sont plus perfectionnistes et enfin, qu'elles se mettent une pression monstre genre, avec leurs enfants. Enfin, en tout cas, souvent, que ça revient. Bon, s'il y a des femmes qui m'écoutent là, vous me direz. Du coup.
Mais pour rebondir là-dessus,
Ouais.
j'ai l'impression que si j'avais des enfants, mais je deviendrais chiante, quoi. C'est un
Ouais.
cliché, mais que je serais sans doute, je sais pas, aigrie parce que j'aurais pas assez de temps d'énergie avec. Dès que je deviens un petit peu stressée, moi, je suis aigrie. Dès que j'ai un manque de sommeil, mais voilà. Et je
Ouais.
disais le tour à mon compagnon, mais en fait, je pense que je deviendrais aigrie parce que je voudrais tout mener de front. Alors, c'est faire un plan sur la comète, mais ça
Oui.
rejoint peut-être. Alors, sans. Là, je sais, je pense pas être au potentiel, mais je pense que ça rejoint cette idée du perfectionnisme, tu vois. De dire, parce qu'en fait, on ne peut pas rendre justice à ce perfectionnisme, déjà en temps normal, mais en plus, quand on mène de front plusieurs choses à la fois, je pense que c'est encore plus compliqué. Et il y a
Ouais.
cette déception de ne pas réussir, de ne pas correspondre à son idéal. Et ouais,
C'est ça.
je ne sais pas si j'arriverai à
Non,
gérer ça, voilà,
je
mais
vois totalement ce que tu veux dire. Mais vraiment, je vois totalement. Pour moi, en fait, c'est souvent ce que je dis. Alors, ça fait très. Voilà, c'est pareil. On pourrait trouver les termes bizarres. Mais pour moi, avoir des enfants, ce serait carrément, pour moi, une mission de vie. Ce serait un métier, quoi. Ce
oui.
serait. Enfin, voilà. C'est. Je le vois pas comme un petit truc comme ça. Mais bon, après, c'est ma perception. C'est pas celle de tout le monde.
Non,
Mais.
mais cela dit, il y a une forme de. Tu vois, enfin, je pense que c'est aussi une forme de responsabilité.
Ouais, c'est ça.
Et je sais que, enfin, moi, j'ai pu aussi discuter avec des personnes autour de moi qui avaient des enfants. Mais oui, mais on voit que c'est réfléchi. Et ton cheminement, bah, montre que oui, avoir un enfant, bah, c'est une vraie responsabilité, c'est du
C'est
travail.
clair.
Et voilà. Et c'est vrai que ça permet aussi de mettre un peu les choses en perspective. Alors, nous, il y a un côté un petit peu extrême, forcément, mais disons qu'on se rend compte de ce que ça signifie, je pense. Même si on exagère peut-être un petit peu, mais on se rend compte de ce que ça signifie. Hein, c'est pas juste. En fait, c'est pas faire un enfant,
Ouais.
c'est être parent. Parce que bon, faire un enfant, sauf bien sûr si on a, ce qui est le cas aussi, hein, des difficultés à concevoir,
Oui,
hein,
bien sûr.
qui peut rendre d'autant plus blessant les questions, on entend, parce qu'on part toujours du
Ouais.
principe que les femmes en face peuvent, mais quand elles ne peuvent pas, alors là, c'est encore pire. Mais c'est être parent, en fait, la décision, je trouve, qui est la plus compliquée. Voilà, avoir un enfant, c'est aussi une question d'expression. Je veux des enfants, mais est-ce que je veux forcément être parent? Et je
Ouais,
suis
c'est
pas,
vrai.
je sais pas si tous les parents par choix se posent cette question, quoi. Or, c'est difficile d'être parent, il faut le dire. Je pense que notre réflexion permet de mettre un peu ça en perspective, quoi. Voilà. Là encore,
C'est
sans
vrai.
présenter la parentalité comme une horreur, hein, c'est pas du tout ça, mais de montrer que tout n'est pas non plus un long fleuve tranquille.
C'est ça, oui, qu'il y a du bon, du moins bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, j'avais entendu que tu avais parlé d'un truc et dont on parle quasiment jamais. C'est la congélation d'ovocytes pour
Ah
les femmes
oui.
qui. Alors, c'est vrai que comme tu disais déjà, il y a la question hyper blessante. Moi, quand on me demande ça, là, même là, encore aujourd'hui, là, parce que je fais une prise de sang, enfin bref, j'ai dû faire des examens, et ils sont partis du principe que c'était pour une grossesse. Et j'étais là,
Ah.
oula, pas du tout. Et je me dis, mais le nombre de gaffes, en fait, qui doivent être faites, quand, bah, soit quand tu peux pas en avoir, ou même quand t'en veux pas, mais bon, c'est peut-être différent. Et d'un autre côté, je connais du coup des femmes qui hésitent et qui, ouais, qui se posent la question, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que. En gros, comme tu disais, la date de péremption, là, est-ce que j'attends de passer la date de péremption? Horrible ce terme, quoi, mais bon,
Mais
c'est un petit
surtout que
peu
bon,
ce qu'on
alors
entend. Ouais.
oui, puis surtout que bon, alors bien évidemment,
Mmh.
le nombre d'ovocytes diminue avec l'âge chez la femme, il ne faut pas
Mmh.
se leurrer. Chez l'homme aussi, et ça on l'entend un petit peu moins.
Ouais, c'est
Bien
vrai.
sûr, les hommes peuvent avoir des enfants beaucoup plus longtemps que nous, mais leur fertilité diminue aussi avec l'âge. Hein. Et alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ça fait quelques années que le débat se développe autour de la question et que cette fameuse idée que la fertilité chuterait en flèche après 35 ans est en partie fondée sur des études qui datent d'il y a plusieurs siècles. Il y a eu tout un
Ah.
débat. Regardez, si vous voulez taper, chercher le nom de la. Ben, je crois que c'est une psychologue en plus, c'est Jean Twenge. Alors, c'est Twenge,
Alors,
Jean comme Jean,
TW, tu peux me redire, je peux
TW,
noter.
alors Jean comme Jean,
Ah,
G-E-A-N, Twenge, où elle,
OK.
donc c'est une, donc c'est en anglaise, mais on trouve pas mal de, je pense, de traductions. Il y a pas mal d'articles aussi autour de la pression de l'horloge biologique,
Ouais.
cette fameuse expression, parce qu'en fait, ça fait pas très longtemps qu'on associe cette expression à la fertilité à la fécondité qui décroît, hein, ça, ou la fertilité aussi qui décroît. Et déjà, ça, il faut le nuancer, parce que, et c'est ce que disent aussi plusieurs gynécologues, notamment Martin Winkler, dont je trouve les travaux absolument formidables, qui expliquent que, bah, très, enfin, pas tout le temps, mais souvent, quand on constate que des femmes ne peuvent pas avoir d'enfants après 35 ans, c'est qu'elles ne le pouvaient pas non plus à 24. Donc bon, il y a un débat. Je ne dis pas du tout qu'on peut encore avoir des enfants avec la même chance à 40 qu'à 35, mais les choses sont un peu plus nuancées. Et derrière cette idée que tout s'arrêterait comme ça à 35 comme un coup près, il y a aussi une frilosité à voir des femmes de 40 ans avoir des enfants. Il y a aussi
Ouais, c'est ça.
une promotion du jeunisme, hein, qui est derrière tout ça. Voilà, il faut, et donc bon, déjà, ça, c'est quelque chose qui me semble falloir
T'entends
nuancer.
par jeunisme, du coup?
Oui,
Est-ce que
alors bah,
c'est... Ouais,
l'idée que,
je s'assure que c'est ça. OK.
oui, bah, qu'il faudrait forcément avoir des enfants en ayant moins de 35 ans, quoi. Parce que
OK.
forcément, 40, c'est déjà. Et alors, pareil, hein, moi, je sais que plusieurs collègues m'ont dit qu'elles avaient eu des enfants à 40 ou même après. Voilà, là, c'était tout de suite la catastrophe, etc. Une grand-mère, il les cherchait à l'école. Enfin, bon, il y a aussi tous ces clichés-là. Donc, alors. Attention, je ne dis pas qu'on peut encore avoir des enfants toute sa vie. Hein. À 42, 43 ans, ça devient vraiment très, très, très compliqué. Simplement, l'horloge biologique, l'idée d'une horloge biologique qui ferait tic-tac et qui s'arrêterait comme ça à 35 ans comme un coup près, c'est un mythe. Ça, c'est clair et net. C'est plus compliqué et c'est beaucoup plus progressif et c'est à nuancer en tout cas, me semble-t-il.
D'accord.
Cela dit, si on a cette crainte qui est réelle, hein, d'avoir une. De voir son taux de fécondité décroître avec l'âge. Effectivement, hein, se faire congeler les ovocytes, c'est une possibilité, alors qu'il n'existe pas encore en France. Hein. Pas mal de femmes partent le faire en Espagne. Je ne sais plus si c'est en Belgique ou en Hollande. Mais là, je suis en vacances, donc j'ai tout oublié. Bon, l'Espagne est le
Oui,
plus souvent
c'est pas
citée.
grave.
Mais là encore, c'est très souvent aussi un parcours du combattant. Et il me semble qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un débat là-dessus, à ce sujet, pour que le calendrier, entre guillemets, professionnel des femmes correspondent aussi à leur calendrier biologique, parce que c'est vrai que, enfin, on voit aujourd'hui, enfin, l'âge auquel on a un premier CDI, où la situation professionnelle se stabilise, recule de plus en plus, et on peut tout à fait comprendre que les femmes veuillent attendre, quoi. D'ailleurs,
Ouais,
c'est
ben
pour
non.
ça que C'est pour ça que cette expression était apparue d'ailleurs il y a quelque temps dans l'horloge biologique, je crois que c'est dans les années 70, pour désigner le fait qu'il était compliqué pour une femme de mener de front sa carrière et d'avoir des enfants. C'était une métaphore à l'origine. Hein. Et c'est devenu quelque chose systématiquement associé à cette fertilité qui décroît en flèche. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui me faudrait vraiment en parler dans l'espace public. Quoi. Il y a eu quelques livres hein, sur le sujet, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez... assez tue, quoi. Parce que là encore, on considère qu'on produit de l'artificialité, etc. Or non, ça rejoint aussi la capacité à pouvoir disposer de son corps comme on l'entend et le droit de pouvoir disposer de son corps comme on l'entend. Donc moi, j'espère vraiment que ce débat se généralisera et ne restera pas cantonné en Espagne avec tout un parcours du combattant et des voyages obligatoires, etc. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui... C'est une question qui se pose, quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas attendre bon. Voilà, c'est vrai que il y a cette injustice biologique entre les hommes et les femmes qui fait que les cartes ne sont pas forcément rebattues. Bon,
c'est cela ce que dit, j'étais en train de me dire, ouais.
Cela dit, bon, il y a aussi, il faut quand même le répéter, il y a quand même beaucoup de femmes de entre 20 et 30 ans qui ne peuvent pas avoir d'enfants non plus. Hein, donc c'est vrai que c'est pas uniquement lié à l'âge. Hein, il y a aussi, c'est lié à tellement de environnementaux aussi, pollution, perturbateurs endocriniens, et ça on n'en parle pas non plus beaucoup. Hein, on parle de cette différence biologique entre hommes et femmes, mais on évite très souvent dans les débats de parler de tout ce qui influence la diminution du nombre d'ovocytes. Et ça c'est quelque chose qui, là encore, hein, pas forcément un tabou parce qu'on en parle quand même un petit peu, mais ouais, c'est quelque chose qui n'est pas très fréquemment évoqué, quoi. Tout ce qui touche au corps de la femme, de toute façon, ça continue à poser problème, ça c'est clair.
Je suis bien d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. J'étais tombée sur un seul compte Instagram, je crois, qui parlait de congélation d'ovocytes et je ne savais même pas que ça existait. Donc déjà, voilà, ça en dit un peu long, mais voilà. Et oui, à un moment, tu as parlé des hommes. Justement, j'étais en train de me dire, il me semble que tu avais dit dans une de tes interviews que ce n'était pas des hommes qui te faisaient des remarques, c'était surtout les femmes. Et je me disais aussi, alors je ne connais pas les statistiques, mais est-ce que les hommes aussi entendent à vite faire un enfant? Je ne suis pas sûre. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Mais...
Alors, bon, ouais. Les hommes l'entendent, mais moins que les femmes, selon les études que j'ai pu consulter. En général, c'est au moment où leur situation professionnelle commence à se stabiliser. Bon, alors, quand est-ce que tu envisages de fonder un foyer? Mais ces remarques sont, là encore, hein, selon les études que j'ai pu consulter, selon les amis que j'ai pu interroger, moins fréquentes, parce que comme... l'homme a plus le temps dans les mentalités collectives. On ne s'imagine pas qu'il y aura aussi une légère baisse quand même de la capacité à se reproduire. On s'imagine qu'il a le temps et donc l'identité masculine est moins corrélée à l'identité de père que l'identité féminine l'est à celle de la mère. Parce que chez la femme, c'est quand même plus concentré sur quelques années. Et donc, on s'imagine que voilà, si un homme n'en veut pas tout de suite, il pourra toujours en avoir plus tard. Donc, c'est quand même moins fréquent. Et puis, autre chose qui explique que c'est moins fréquent, enfin, nous sommes quand même, nous autres femmes, biberonnées depuis notre plus jeune âge à l'idée que quatre mères constitueraient une évidence, constitueraient le destin le plus épanouissant pour nous. On est encore très loin, hein, en tout cas en France, de la construction d'un idéal de la parentalité partagée entre hommes et femmes. Donc, il y a cette idée biologique que l'homme et la femme sont différents, l'homme a plus le temps, donc on embête moins, en gros. Et puis, il y a aussi quand même cette idée que tout ce qui relève du soin à l'enfant, tout ce qui relève c'est associé à la femme, quoi. Et là, il suffit de regarder les statistiques de l'Observatoire des inégalités. Plus d'une fois sur deux, donc dans un couple hétérosexuel, quand un enfant est malade, quand il faut aller chercher l'enfant à l'école, quand il faut faire les devoirs avec l'enfant, quand il faut choisir les habits avec l'enfant, plus d'une fois sur deux, c'est la mère qui s'en occupe. Donc, et ça se construit très, très tôt. Donc, pour cette raison aussi, c'est vrai que les femmes sont davantage embêtées et reproduisent elles-mêmes, hein, c'est cette construction sociale, quoi, tout à fait.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Moi, je fais des parallèles avec mon vécu, du coup, mais c'est exactement ça. Et que souvent, j'avais des discussions comme ça avec mon père, s'il nous écoute, ce serait drôle. qui lui, ne se rendait pas compte que c'était, par exemple, plus ma mère qui emmenait à l'école, qui faisait, je sais pas, toutes les petites tâches du genre appeler le dentiste, tous les trucs comme ça. Enfin bref, c'est un gros sujet, bon, comme la charge mentale, quoi. Gros sujet. Et alors, vu qu'il y a tellement de trucs à dire, mais que voilà, le temps coule, je voulais te demander si, voilà, est-ce que tu pourrais dire peut-être aux personnes, tu vois, qui font des remarques justement aux femmes qui veulent pas être mères, Est-ce que tu pourrais leur dire deux bonnes raisons d'arrêter de faire ces remarques? Est-ce que tu en trouverais ou pas?
Ah, alors moi je
Ouais.
pense que oui, alors au niveau des réponses, des raisons, en fait moi je cherche pas à rendre, à retourner les rationalisations aux rationalisations parce que ça rentre dans des débats pas possibles. Alors j'ai trouvé
Ouais.
une parade qui est de dire, après maintes réflexions, sans façon merci. Ça devait être le premier titre de mon livre d'ailleurs, sans façon merci, pour rester poli, un petit peu irrévérencieuse avec un grand sourire, et puis bah, dire que j'ai réfléchi à la question. Sans façon, merci. Voilà. Alors, ça ne fonctionne bien évidemment pas
Ah
toujours. Et
mince.
donc, voilà, forcément, quand on se retrouve notamment avec, je ne sais pas, des grands-mères un petit peu intrusives, alors plutôt que de trouver des raisons, ce que je fais, c'est que j'essaye de questionner l'autre en face. Alors, pas lui renvoyer. Alors, bon, parfois, vraiment, je suis un peu agacée, je renvoie les questions à l'envoyeur, mais plutôt pour essayer de sortir un petit peu de ce cercle agressif, je me mets à questionner la personne en face sur les raisons de sa question. Je te donne un exemple. Est-ce que tu n'as pas peur de finir seule? Mais pourquoi la solitude te fait peur? Tu t'imagines que je ne pourrais pas être heureuse seule? Et voilà, pour décaler un petit peu le débat, et on se rend compte très souvent que finalement, les personnes qui vous posent ces questions projettent des choses sur vous.
Ah,
Ça
c'est ça.
me semble plus productif que de chercher à tout prix des raisons, parce que de toute façon, il y a rarement une raison et que ce n'est pas très constructif dans la mesure où nous sommes encore une minorité, nous autres femmes qui ne veulent pas d'enfants, ça passe tout de suite pour une agression. Donc essayez, voilà,
Vrai. Ouais,
sans
c'est
façon
vrai.
merci quand on n'a pas envie, ou alors essayez plutôt de dialoguer, mais en prenant les questions en amont, en fait, hein. Quand on est interrogé sur la solitude, sur voilà, la réponse du cœur, mais est-ce que tu penses vraiment que tous nos choix reviennent à des choix de cœur? Et bon, alors après, on peut avoir le soupçon de passer pour une intello, quelqu'un qui décortique tout, mais tant pis, ça donne lieu à une discussion et ça permet de sortir un petit peu des crispations. Mais sinon, le sans façon merci, ça fonctionne bien.
C'est intéressant parce qu'il y en a qui m'ont demandé des solutions, donc sans façon, merci. C'est vrai que ça fait bien comprendre un petit peu.
Avec un petit
Ouais,
sourire pour montrer qu'on n'est
oui.
pas dans l'agressivité, sans façon, merci, voilà. Et puis
Je note.
si la personne continue, bon ben voilà, enfin, quoi,
Oui,
vraiment
après.
lui parler de ses propres questions à elle, quoi. Parce que je trouve que c'est, et ça permet de montrer à quel point ces personnes projettent des choses sur vous. Mais ne pas se justifier, parce que renvoyer, je trouve, des raisons en face, ça, voilà, on est
Ça donne
interrogé,
une
il faut
raison,
rationner.
quoi,
Voilà,
de...
cette raison, et puis bah en fait non, j'ai pas envie de donner des raisons, comme je te demande pas tes raisons d'avoir des enfants, quoi, en fait. Enfin, et après, ok, je te donne mes raisons, mais quelles sont tes raisons d'avoir des enfants à toi? Et là, vous allez voir la tête de la personne, en fait,
Exactement.
parce qu'il n'y a pas une raison dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas une raison.
Non, mais c'est vraiment trop ça. Parce que moi, je me rappelle de débats qui sont partis, mais tellement loin, même de, bah, tu sais, de repas de famille, quoi, le truc cliché, où je commençais à parler d'écologie. Justement, moi, c'était une de mes raisons qui a commencé à me faire poser la question de est-ce que je veux mettre un enfant dans ce monde, etc. Blablabla. Et là, alors là, ça, alors là, trop de débats, là. Débat du réchauffement
Oui.
climatique et tout, c'est juste pas possible.
Et puis parce qu'en fait, même si moi,
Non.
ça participe aussi de mon choix, hein, cette inquiétude
Ouais.
écologique, bien sûr. Mais en fait, quand vous dites ça à des personnes qui, de toute façon, ne sont pas forcément ouvertes à votre choix, vous passez pour une militante, et oui, nanana. Et puis de toute façon, il y a toujours eu des catastrophes, qu'est-ce que tu nous embêtes avec ça?
Ouais, c'est
Et
ça, exactement.
je pense que c'est bien de le savoir pour soi, mais en fait, le donner comme une raison, ça donne finalement, enfin, tu tends le bâton pour te faire battre
C'est
personne en face.
ça.
Ah bah oui, c'est une. Elle est trop sensible, elle est trop sensible, voilà, elle est trop
Ah.
sensible. Et on rejoint tous ces débats. Donc finalement, pas donner de raison, les connaître pour soi, ou alors quand on en discute avec quelqu'un qui partage le même choix que vous, mais voilà, mais pas comme ça, et puis tout de suite, vous passez pour une militante. Enfin, parce qu'il y a tous ces clichés aussi derrière. Et alors
Parce
moi, quand je.
qu'être une militante, de base, en
Oui!
plus, c'est pas censé être mauvais, mais là,
Mais
c'est...
voilà, mais
Voilà.
c'est le cliché de
Voilà.
l'extrême. Alors moi, quand je dis que c'est un choix féministe au sens large, oh là là, là. Voilà,
Oui, là, il vaut mieux
c'est.
pas le dire, quoi.
Voilà, mais j'ai bon espoir que dans quelques années,
Ouais.
j'espère, pas quelques décennies, quelques années, quand on se mettra, je l'espère, à davantage parler de ça, on n'aura plus toutes ces réserves à assumer de manière, pour le coup, objective notre choix, donnant des raisons objectives. Mais là, il me semble que c'est encore trop difficile pour. Je pense qu'il faut se protéger face à ce type de questions, en fait. Et pas voilà, dialoguer avec l'autre, mais pas forcément se révéler soi. Parce que, sauf si vraiment on est avec une amie proche.
Ouais, en fait, c'est ça. Avec les bonnes personnes, en gros, on peut un peu di en discuter. Et les personnes où on sent que, oula, Elles veulent nous convaincre d'en faire. En gros, là, c'est mauvais terrain, quoi, c'est ça. Mais c'est intéressant que tu aies dit le trop sensible, parce que déjà, ma communauté entend tout le temps ça, tu es trop sensible, tu es trop compliqué, oh là là, tu réfléchis trop, ah là là, ce genre de phrase. Donc, bon, c'est intéressant de voir que peut-être tu as entendu des choses comme ça, je ne sais pas si c'est ton cas ou pas, d'avoir entendu que tu étais peut-être trop sensible. Et ouais, donc du coup, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais en dernier, là, si tu devais, je sais pas, il y a une femme qui nous écoute et qui a, elle n'arrive pas à assumer son choix, tu lui dirais quoi? Terminer. Son choix de ne pas être mère, pardon.
Ah ben, elle n'est pas obligée de l'assumer pleinement tout de suite. Elle n'est pas obligée, elle a le temps. Enfin, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle a le temps parce qu'il y a aussi des choses comme l'adoption qui existent.
C'est vrai.
Voilà. Elle a le temps. Quel dialogue, je dirais, avec... Alors, je ne suis pas du tout Madame Bon Conseil, mais moi, je dirais, si je pouvais l'aider, si c'était une de mes amies, voilà, que je pouvais me permettre de lui donner des conseils, quel dialogue avec les personnes autour d'elle, avec les parents autour d'elle, qu'elle leur demande, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs joies, qu'elle lise aussi sur le sujet, parce que enfin, il y a quand même de plus en plus de choses qui se développent. Hein, il suffit de taper sur un moteur de recherche, non désir de maternité, on trouve pas mal de travaux universitaires, plus ou moins vulgarisés ou pas, de plus en plus de podcasts ou ce type de
Oui.
conversation qui permet d'en parler, et qu'elle se laisse le temps. Enfin, il n'y a pas besoin d'assumer à 100% ce choix, quoi. Même si nous sommes des êtres entiers, des femmes entières, qu'elle se laisse le temps d'en parler, et puis qu'elle se dise, bah, oui, peut-être que j'arriverai pas à assumer mon choix, mais finalement, si je l'avais assumé, j'aurais pu être aussi malheureuse. Donc, je pense qu'il ne faut pas se mettre soi-même la pression de prendre cette discussion pleine, en se disant que les personnes qui choisissent d'avoir des enfants... Peut-être qu'elle le regrette aussi un petit peu de temps en temps, même si elle ne le dise pas. Je pense qu'il faut garder ça en tête, que la
Oui, c'est ça.
parentalité n'est pas toujours un long fleuve tranquille et que cette injonction aussi à assumer forcément ce choix parce qu'il est marginal, il faut s'en protéger, quoi. Et se dire que nous sommes multiples et nos parcours sont innombrables, quoi qu'il arrive.
J'adore, vraiment, merci beaucoup et merci pour ton temps parce que je sais qu'on a un petit peu dépassé. Et du coup, pour rappeler juste ton livre, parce que c'est quand même important. Donc, ton livre, c'est J'ai décidé de ne pas être mère, donc toujours de Chloé Chaudet. Je mettrai le lien dans la bio. Et c'est la fin de cet épisode qui aurait pu durer des heures, tellement c'était passionnant. En tout cas, moi j'ai adoré. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si ça t'a aidé, si ça a répondu à des questions. Tu peux partager ce podcast sur les réseaux sociaux aussi, la vidéo YouTube ou le podcast, peu importe, si c'est un sujet qui te tient à cœur. Pour ma part, ça me tient à cœur. C'est pour ça que je voulais partager ce message. Et tu retrouveras tout dans la description. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast sur Hypersensible et Hypersereine.